Il y a une vie, il y a différents niveaux de vie. Il y a la vie naturelle. Pour les Juifs, qui a écrit ces psaumes, la parole de Dieu était quelque chose de plus que la vie. On ne sait pas si à ce moment-là, lorsque ces psaumes ont été écrits, les gens déjà croyaient dans une vie éternelle après la mort. Parce que cette vérité s'est développée relativement tard. Mais c'est que pour un Juif, la parole de Dieu, c'était la vie même. En effet, il y a un autre psaume qui dit « Si tu ne me parles pas, je suis comme celui qui descend dans le tombeau. » Les croyants d'Israël se sentent vraiment vivants dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette vie? Évidemment, ils ne la confondent pas avec la vie biologique, parce que c'est la vie biologique qui précède. Mais l'essence pleine de la vie, c'est-à-dire savoir l'essence de la vie, non seulement vivre, mais savoir pourquoi on vit, la réponse venait de la parole de Dieu. Évidemment, nous, lorsque je dis « ta parole me fait vivre », c'est la parole de Dieu qui est devenue maintenant incarnée en Jésus-Christ, donc qui a assumé une universalité, une ampleur différente, qui n'annule pas l'essence originaire du psaume, mais lui donne un sens nouveau.
Cette parole a été écrite il y a des milliers d'années. Comment peut-elle interpeller l'homme d'aujourd'hui?
Évidemment, il y a un élément dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, évidemment, caduque, lié à la situation historique, culturelle, religieuse de l'époque. Là, il y a tout l'espace pour l'herméneutique biblique. C'est-à-dire, la Bible, on ne peut pas la prendre mécaniquement et la transporter aujourd'hui. Il faut un procès d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation, d'adaptation. Ces discours a moins valeur pour le Nouveau Testament parce que l'Évangile est tellement universel. L'Évangile n'est pas lié à des institutions politiques ou économiques caduques, donc il faut les libérer. Non, l'Évangile touche des valeurs, des dimensions de la vie qui sont toujours présentes. Donc, ta parole me fait vivre, pour nous les chrétiens aujourd'hui, a une valeur beaucoup plus profonde, parce que la parole c'est le Christ, donc c'est comme dire « le Christ me fait vivre », c'est comme si Paul disait « pour moi vivre c'est le Christ ». Et ça, ce n'est pas un slogan, c'est autre chose. Les hommes d'aujourd'hui inventent des slogans, des mots forts, mais les mots du Christ ou de Saint Paul ne sont pas des slogans, sont des vérités vécues, prononcées, annoncées.
On entend souvent dire, et il nous arrive de nous le dire aussi, « Je n'entends pas Dieu, je lui parle, mais lui ne me répond pas ». Alors, quelle est cette parole de Dieu qui est difficile à entendre?
Eh bien, Saint Paul disait que c'est le mot de la croix qui est difficile pour le monde à accepter, non? Que la parole de Dieu, que le salut passe à travers la souffrance et la croix même de Dieu, ça c'est difficile. Mais je crois que la difficulté d'accepter la parole de Dieu ne vient pas tellement du mystère. La difficulté intrinsèque vient du fait que nous voulons que Dieu nous parle comme nous voulons l'entendre. Nous voulons qu'il nous dise ce que nous voulons entendre. On accuse Dieu de ce terme. Mais c'est qu'on n'ouvre pas les oreilles. Ce que nous appelons le silence de Dieu, c'est l'incapacité de se recueillir, de faire silence, de prier, parce que c'est dans la prière insistante, qu'on perçoit la parole de Dieu. Et il faut faire attention lorsqu'on emploie ces lieux communs de dire que Dieu ne répond pas, Dieu répond, Dieu répond. Parfois, son silence, disait Saint-Augustin, c'est sa réponse. Ça veut dire qu'il te demande d'accepter précisément ce que tu lui demandes de t'enlever. Il te demande, comme au Christ dans les Gethsémani, apparemment le Christ n'a pas été exaucé. Éloigne de moi ce calice. Le calice n'est pas éloigné, mais l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ a été exaucé. Et en effet, l'écoute est arrivée trois jours après, mais quelle écoute, la résurrection, la gloire, beaucoup plus que s'il n'était pas mort.
Finalement, quelle est la clé pour accueillir cette parole de vie?
Un rapport personnel d'amitié avec le Christ, parce que la parole de Dieu s'est fait chair. Et maintenant, la parole de Dieu n'est pour nous pas un mot vide, n'est pas une abstraction, non, un système de pensée. Non. La parole de Dieu, c'est le Christ. Non. Le Christ qui nous a rendu vrai toute la parole avant lui, de l'Ancien Testament, et a prononcé des paroles nouvelles pour nous. Donc, comme dans la vie humaine, non, qu'est-ce qui donne importance à la parole d'une personne? C'est l'amour qu'il y a. Le rapport qu'il y a entre ces deux personnes. Si une personne, pour moi, est vraiment chère, je l'estime, je l'aime beaucoup, ce qu'elle dit est précieux pour moi. Si je ne fais aucun compte de cette personne, évidemment, la parole, on ne l'écoute pas. On est plus préoccupé de parler que d'écouter. Alors, le secret pour faire que la parole de Dieu soit pour nous une source de vie, je crois que le Christ ne soit pas un personnage, mais une personne. Il y a une grande différence. Le personnage, c'est quelqu'un duquel on peut parler tout le temps. Napoléon, par exemple, est un personnage, comme beaucoup d'autres. Alors, je peux parler de Napoléon tout le temps que je veux. Mais si je dis autour de moi que je parle chaque jour avec Napoléon, on m'amène à la clinique psychiatrique. La personne, au contraire, est quelqu'un avec lequel on peut parler. Et le Christ ressuscité est une personne. Ce qui fait la différence entre les chrétiens nominaux et les chrétiens réels, c'est le fait si le Christ est pour eux un personnage, une mémoire du passé, un ensemble de doctrines, de dogmes, ou s'il est un vivant ressuscité.
Comment le peuple des fidèles doit-il aujourd'hui utiliser la parole? Je fais référence notamment à ce que vous appelez dans votre livre la nouvelle prophétie de Jean-Baptiste.
Ce que j'appelle la nouvelle prophétie de Jean-Baptiste, c'est la nouveauté de la prophétie chrétienne, qui ne consiste plus en annonçant un salut futur, dans les derniers jours ou dans ces jours-là. Donc la prophétie nouvelle dont nous avons besoin, c'est d'aider les gens d'aujourd'hui, comme Jean-Baptiste aidait les gens autour de lui, à se rendre compte. Au fond, ça se réduit au mot de Jean-Baptiste. Autour de vous, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas assez. À mon avis, ça distingue la prophétie chrétienne de toute prophétie. Donc, lorsqu'on nomme prophète, par exemple, Freud ou Nietzsche, parce qu'ils ont ouvert des horizons nouveaux, ça, c'est de la prophétie sécularisée. On abuse, parce que le terme prophétie signifie « laisser parler Dieu ». Pour rendre sensible la présence de Dieu.